une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. Renaissance artistique pour des espèces fossiles. Avec Mon village, mon fossile, la préhistoire s'invite dans les villages. Les communes d'Escamps, Bâche, Concotte, Crégols, Larnagol, Limognan-Quercy et Veilatz vont prochainement accueillir une statue d'une espèce fossile portant leur nom. Chacune de ces espèces a été retrouvée dans les phosphatières et a habité le Quercy il y a plus de 30 millions d'années. À travers cette action originale baptisée Mon village, mon fossile, les habitants du parc pourront découvrir la richesse géologique et la biodiversité passée de leur territoire. Patrick Médéric, sculpteur installé à Bouziès, a été choisi pour la réalisation de ses 7 œuvres. Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Patrick Médéric et de Marie-Myrtille Gallet du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Alors, au départ, l'opération, elle est venue de, en fait, du village de Mouillac, qui a une espèce emblématique, qui est le Mouillacitherium. Donc, du coup, c'est une espèce fossile qui porte le nom du village et ils en ont fait voilà, une carte postale. Et du coup, dans le Quercy, en fait, on a, dans les phosphatières du Quercy, on a retrouvé des espèces fossiles qui ont été baptisées en l'honneur de villes ou de lieux-dits du Causses de Limogne, en fait. Et donc, l'idée, c'était de se dire, il faudrait que les habitants s'approprient cette richesse paléontologique et d'avoir ces sculptures de ces espèces qui portent le nom ou le lieu-dit de ces villages. Et voilà comment est née l'opération Mon village, mon fossile. Donc, l'idée, c'était d'avoir une curiosité dans le village et qui fasse que les habitants s'approprient leur richesse géologique.
Comment on baptise un fossile ?
Alors, un fossile ou une espèce ? Donc, on va dire une espèce. quand une espèce est découverte, le chercheur va la baptiser comme il l'entend. Donc, il peut lui donner le nom de son amoureuse, le nom d'une étoile. Et en fait, les espèces qui ont été retrouvées dans les phosphatières, il y a des scientifiques qui ont décidé de les baptiser avec le nom de commune ou de lieu-dit. En l'honneur de communes ou de lieux-dits, c'est pour ça qu'on retrouve le Bachitherium pour la commune de Bâche, ou Velasia pour la commune de Velas, ou Limonitarium pour la commune de Limone. Donc en fait, ces espèces de Mon village, mon fossile portent le nom ou le lieu-dit des communes où elles seront installées.
Quand on parle de fossiles, on parle de quelle époque ?
Alors, ce qu'il faut retenir, parce que là, je risque de dire des bêtises, mais c'est en grande partie l'époque de l'Oligocène. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout des espèces qui datent de après la grande coupure. En fait, donc il faut savoir que en termes d'échelle géologique, on a eu des disparitions de biodiversité, des grandes disparitions de biodiversité, et la grande coupure, ça a été à peu près 80% de la biodiversité qui a disparu. Et donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. En fait, ce sont des espèces qui montrent la biodiversité. Qui n'existe plus aujourd'hui et où à l'époque où dans le Quercy on était sur une forêt tropicale ou sur un climat plutôt de tropique que celui qu'on connaît aujourd'hui.
Je vois une des sculptures dont on va parler, mais comment d'un fossile on peut imaginer l'espèce dans son intégralité?
Eh ben alors là, c'est le travail des paléontologues, en fait, et qui réussissent à... En fait, il faut savoir que dans les fosses fatières, donc c'est un musée à ciel ouvert où on a beaucoup, beaucoup de restes d'espèces fossiles, donc d'ossements. Et c'est grâce à ces ossements qu'en fait, ils vont reconstituer l'espèce et ils vont lui donner l'aspect le plus... réel, enfin le plus proche qui pouvait représenter l'espèce. Donc, du coup, on en fait un dessin. Et après, ça, c'est aujourd'hui, c'est plutôt la créativité de l'artiste aussi qui lui donne vie.
Donc, Mon Village, Mon Fossile va se poser dans plusieurs villages du Lot. Dans combien de villages? Où?
Alors, dans 7 exactement. Donc, on a le village de Bâche, le village de Concos, le village de Crégols, le village d'Escan, de Larnagol, de Vélas et de Limogne bien aussi, Limogne en Quercy.
Dans chaque village, il y aura une sculpture représentant une espèce animale.
Alors non, en fait, comment dire, ce sont des espèces animales. Là aujourd'hui on parle de fossiles parce que en fait on les a retrouvés dans les fosses fatières et que les os sont fossilisés et que ce sont des espèces disparues. Mais donc du coup ça représente l'animal tel qu'on l'imagine en fait. Ce sont des espèces qui après soit ont disparu, soit ont évolué, mais c'est l'espèce telle qu'elle était, ouais, il y a des millions d'années.
Donc du coup vous avez fait appel à un sculpteur qui va et qui est en train de réaliser toutes ces œuvres?
Alors, avant tout, les communes, les 7 communes se sont réunies pour décrire un petit peu le cahier des charges qu'on attendait. Donc, on a eu une première réunion, les communes ont décrit un peu ce qu'elles voulaient de cette opération. On a lancé un appel, enfin un marché, et on avait 4 candidats. Et donc, du coup, on a présenté le travail des 4 artistes et les communes ont choisi donc Patrick Médéric, basé à Bouziès, qui travaille principalement l'acier et le fer.
Vous êtes sculpteur, vous travaillez sur des grandes pièces la plupart du temps?
Oui, j'aime bien le grand format, oui mais il m'arrive de faire du moyen format. Je ne fais pas de petites choses, je fais en général du grand format.
Comment vous l'avez accueilli cet appel à projet?
Eh bien, je l'accueillis avec plaisir parce que déjà on a été sélectionné et puis c'est mon département. Parce que bon, je travaille depuis maintenant professionnellement depuis une dizaine d'années. J'ai toujours fait de la sculpture moi, mais professionnellement depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que dans le Lot, j'avais pas encore vendu de pièces. Et là, c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de pouvoir travailler avec le département du Lot. Voilà.
Si on parle de la matière, on part du minéral qui est le fossile. Et là, vous avez créé des pièces en métal. Pourquoi avoir choisi le métal?
Tout simplement parce que ce sont des pièces qui vont être sur des lieux publics et il faut des pièces, comme je dis, indestructibles. Je travaille aussi le bois, donc dans un style totalement différent, mais le bois n'est pas adapté pour un marché public. Il faut vraiment quelque chose qui soit pérenne. Parce que les gens vont monter dessus, les gens vont toucher, vont tirer. Et il faut absolument que ça résiste à ça.
Donc du métal. Est-ce que la pièce que l'on voit ici est à l'échelle? Ou comment vous avez travaillé?
Non. Alors, on s'est calé sur une taille par rapport à un budget. Et donc, les pièces font à peu près, en gros, 1 mètre par 1 mètre. Voilà. Mais vous voyez, par exemple, le cheval gorille, ça, normalement, c'est une pièce qui fait 2,50 m de haut.
Un cheval gorille?
C'est une pièce très intéressante parce que il fallait donc la réaliser, un cheval gorille. En fait, il a une tête qui ressemblerait un peu à un cheval et un corps de gorille. Voilà. Donc, J'ai eu un peu d'infos du parc. De mon côté, j'ai cherché aussi des infos. Et puis du coup, voilà, la pièce est née et je pense qu'elle est pas mal.
Vous êtes parti de documents qu'on vous a fournis, vous avez fouillé.
Bah, c'est un gros travail de recherche parce que bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Il faut que ça ressemble le plus possible. Donc effectivement, j'ai eu de la doc du parc. Et puis de mon côté, j'ai fait un travail de recherche pour avoir... Parce qu'une sculpture, c'est en 3D. Moi, la doc que j'ai eue, c'était du papier. Donc, il a fallu que je cherche le maximum d'infos et de dessins pour pouvoir me faire une idée de ce que j'allais faire.
Et qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces sculptures ?
Il y a déjà une technique, parce que la technique employée, c'est une technique que j'ai mis au point. Personne ne travaille comme ça. C'est vrai que j'aime bien faire un travail de recherche sur des effets de matière, sur des matériaux détournés. Et en fait, avant de faire les marchés publics, je ne travaillais que le bois. Et donc, quand j'ai décidé de postuler sur les marchés publics, il a fallu que je trouve un matériau pérenne, et ça ne pouvait être que la ferraille. Et donc... j'ai commencé à chercher, à bidouiller, à faire des effets de matière, et jusqu'au moment où est né cet effet de matière. Voilà. Donc je travaille avec du fer à béton. Au départ, j'ai fait une armature métallique, donc aussi en fer à béton, pour étudier le mouvement et les proportions. Et quand l'armature me convient, eh ben, je vais complètement l'habiller de fer à béton. Donc après, je soude le fer à béton entre eux, et puis je viens meuler et brosser la brosse métallique. Et donc, il y a un effet de matière vraiment très, très intéressant.
On peut aller les voir, justement.
Je vais vous montrer. Oui. Donc, vous voyez, là, déjà, vous voyez sur celle-là, qui est une pièce à part, hein, c'est un chameau, là, vous avez l'armature métallique.
Oui.
Donc là, qui est fait donc, tout en fer à béton. Là, en fait, elle est prête à être habillée. Alors, okay. Ça sera du métal ou du bois, mais celle-là, voilà. Là, l'armature métallique, c'est le départ. Voilà. Et donc, ensuite, donc, sur une pièce métallique, je viens après... mettre le fer à béton, ce sont des barres de 6 mm, hein, ouais. Et je viens enrober, habiller l'armature. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, l'armature est complètement habillée. Ensuite, elle est meulée et brossée à la brosse métallique.
D'accord.
Donc quand elle est finie, elle est entièrement brillante, comme de l'acier. Donc si vous la laissez en intérieur, ça va rester brillant. Si vous la laissez dehors sans rien mettre, ça va s'oxyder, mais ça va faire une couche protectrice. Donc c'est comme ça que celles du parc vont être. Et si vous voulez qu'elle ne s'oxyde pas dehors, il faut mettre un produit. Voilà, pour qu'elle reste brillante.
Est-ce que avant de faire une grande taille comme ça, on fait des plus petites ?
Non, mais on travaille, on fait un dessin. Enfin, moi, je fais un dessin par terre pour avoir une silhouette. Et puis, je viens commencer à tordre mon métal pour épouser la silhouette. Et puis après, je le mets en 3D, je le mets sur des pattes. Et puis après, chacun a sa méthode de travailler. Mmh. Moi, c'est un peu... voilà, moi, je travaille comme ça.
J'imagine que c'est très lourd.
Oui, c'est très lourd et c'est très long à faire. Parce que vous voyez, le fait d'utiliser du fer à béton et de l'habiller, ça n'avance pas vite. Sur celle-là, par exemple, il y a 2,6 km de fer à béton. En linéaire. Et là, c'est une pièce où il y a 6 mois de travail. Donc voilà. D'accord. Et elle doit peser une tonne deux.
Donc là, il s'agit d'un rhinocéros.
Oui. Ça, c'est une pièce à part, qui n'a rien à voir avec le parc. Hein.
Voilà. Okay.
Pour le parc, là, j'en suis à la 4e. Donc, on a le cheval gorille qui va être à Limogne. Je suis en train de faire celle de Concotte. Donc ça sera cette bête-là qui ressemble un peu à une sarigue, un opossum, et qui va être en fait sur la souche d'arbre. Donc elle va être posée sur la souche d'arbre, et il y aura la queue qui va entourer cette branche. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est la deuxième. Vous avez une sorte de chevrotin qui va aller à
l'Arnagol,
et une deuxième derrière qui va aller à
Bâche.
Voilà. Donc ça sera la 4e, il restera 3 à faire. Donc il restera un oiseau qui va être aussi sur une branche. Et il y aura 2 chauves-souris. Il y a un village où ils n'avaient que la chauve-souris en fossile, donc ils ont pris. L'autre village avait plusieurs fossiles, ils ont pris aussi la chauve-souris. Bon, moi j'aurais préféré effectivement que ce soit une différente, mais bon, je vais faire 2 chauves-souris dans des positions différentes. Voilà. et on aura fait les fêtes. Voilà. Je vais mettre des gants parce que ça
chauffe.
Alors ça, c'est une baguette de quoi ?
C'est une baguette de soudure.
Une baguette de...
On appelle ça une électrode. Vous regardez pas, hein ?
Je regarde pas.
Et voilà, celle-là est mise. Encore, il y en a plus de 45 000 à mettre.
45 000 ?
Non, c'est pas, mais vous voyez le nombre. Ça, ouais. Vous voyez, pour boucher cette surface-là, ouais. Vous voyez le... Enfin, c'est très très long.
Ouais, après, c'est donc, très très long.
Alors l'effet de matière après est hyper intéressant. Vous voyez, là je viens de finir. Donc là c'est meulé, c'est brossé. Donc,
mais pour les courber, c'est à la soudure.
Non. C'est du 6 mm. Donc ça reste quand même. Vous voyez, ça reste
assez flexible. Quand même, voilà. Mais sacré travail pour faire les nuances et les.
Oui. C'est pour ça qu'il faut que l'armature soit le plus précis possible. Parce que comme le fer à béton vient vraiment épouser l'armature, le bois c'est différent parce que le bois, je vais vous montrer, le bois a du volume. Donc l'armature, même si elle n'est pas vraiment exacte, avec le bois, je vais pouvoir rectifier.
Ouais.
Voilà. Mais pour le métal, il faut que l'armature soit le plus fidèle possible.
Okay.
Voilà. Vous voulez voir les pièces en bois ?
Oui.
Fenêtre sur paysage, Sarah de Gouy. L'artiste designer Sarah de Gouy était en résidence toute une semaine au mois de mars dernier à Limogne en Quercy. Invitée par le parc naturel régional des Causses du Quercy et derrière le hublot, elle est la créatrice de la future œuvre d'art refuge sur le GR65 aux portes de la communauté de communes du pays de l'Albinque Limogne. L'œuvre d'art refuge de Limogne-en-Quercy est portée par le parc dans le cadre de Fenêtres sur paysage. Cette aventure artistique se déploie à l'échelle du GR65 avec derrière le hublot et l'Agence des chemins de Compostelle et de nombreux acteurs d'horizons différents. Il est financé par l'Union européenne via le programme LEADER, l'ANCT Massif Central, la DRAC Occitanie, la région Occitanie et la communauté de communes du pays de l'Albinque-Limogne, avec la complicité de la commune de Limogne-en-Quercy.
Sarah, on est donc à côté du GR65 qui est juste à côté de nous. Tu es designer, architecte, plasticienne et tu es actuellement en résidence donc, à Limogne-en-Quercy. Tu es invitée par le parc naturel régional des Causses du Quercy, effectivement en partenariat avec Derrière le Hublot, pour l'installation d'une œuvre d'art refuge autour du Pecten Maximus. Est-ce que tu peux nous en parler de ce fameux Pecten Maximus, s'il te plaît ?
Un Pecten Maximus, du coup, c'est le nom scientifique d'une coquille, la coquille Saint-Jacques, donc une des espèces. Donc là, c'est en fait un choix au niveau du refuge de construire en coquille Saint-Jacques. Mais voilà, derrière ça, il y a tout un récit, une histoire pour en arriver là. Je ne suis pas arrivée la première fois à Limogne-en-Quercy en me disant que j'allais construire en coquille Saint-Jacques. C'est quelque chose qui s'est imaginé petit à petit. Le point de départ, en effet, c'était voilà, une rencontre avec un territoire. Ici, donc, on est dans le parc régional des Causses du Quercy. On a une spécificité forte en termes géologiques. Voilà, j'ai rencontré Thierry, qui est à nos côtés, Pélissier, qui du coup m'a fait découvrir aussi certaines particularités géologiques du territoire et voilà, rappeler évidemment qu'il y avait aussi dans une histoire très lointaine la mer à Limogne en Quercy, 150 millions d'années. Il y a des traces, notamment des traces d'ondes à la sortie du village, des petites huîtres, et donc on trouve voilà, des formes, des traces de la présence de la mer qui m'ont intéressée dans ce récit. Et puis juste à côté de ce site là où nous sommes, où il va y avoir le refuge, on a aussi une vallée sèche Thierry en parlera mieux que moi, mais voilà, un endroit où il y avait l'eau qui coulait aussi à cet endroit-là et qui évoque facilement un rivage, voilà, quelque chose, on voit que quelque chose s'est passé aussi dans le temps. La première résidence, donc c'était il y a un peu plus d'un an, donc au mois de février. Depuis, voilà, je suis venue plusieurs fois, mais dès le départ, ben voilà, on a rencontré Thierry, on avait fait cette balade à plusieurs endroits. Et puis la dernière fois que je suis venue, c'était l'avant-dernière fois, on a aussi été voir des étudiants qui levaient une coupe géologique. Donc voilà, on a vu aussi des traces de bivalves, de coquilles très très anciennes qui étaient en place dans cet endroit-là.
C'est effectivement un bivalve actuel. Bon, moi je m'intéresse plutôt à ce qui s'est passé depuis assez longtemps dans le Quercy. Et comme le disait Sarah, ben, il y a 150 millions d'années, voire un peu plus, il y avait la mer, et dans cette mer, donc tout un tas de fossiles, dont des pectènes déjà. Pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a eu de l'évolution depuis, mais c'était un lien qui se faisait entre la coquille Saint-Jacques fossile et puis la coquille Saint-Jacques et aussi des pèlerins dont elle parlera tout à l'heure. Mmh. Donc il y avait cet aspect-là que Sarah a découvert soit sous forme de petites rides de vagues. Oui, à la sortie de Limogne, on a une plage fossile. Il suffit de fermer les yeux et c'est presque les Bahamas. Il manque les Alizés, mais bon, à part ça, ça va. Donc, il y a ces éléments-là. Puis, elle a vu aussi des étudiants qui travaillaient sur ce secteur-là avec des niveaux assez riches en fossiles. Ils avaient quand même trouvé beaucoup, beaucoup de choses ce jour-là. Et donc, c'est un premier lien avec l'histoire géologique du territoire qui est une histoire longue, très, très longue. Il y a également la fameuse vallée sèche dont Sarah a parlé il y a quelques minutes. La vallée sèche, c'est un autre témoignage, mais une période beaucoup plus récente, puisque ça, c'est, on va dire, schématiquement, 1 ou 2 millions d'années. Donc, on n'est plus du tout dans le Jurassique, comme tout à l'heure. On est dans un temps beaucoup plus proche, à une époque où le Cos était parcouru de ruisseaux dans tous les sens. Aujourd'hui, le Cos, c'est le paysage sec par excellence. En fait, il y a 1 demi-million d'années, il y avait des cours d'eau partout à la surface du Cos. Et cette vallée sèche en est un témoin. Donc c'est un autre élément. Et ces vallées sèches, c'est comme servent aussi souvent de voie de communication. Donc là aussi, on retrouve une idée en lien avec les chemins de Saint-Jacques.
Ça fait combien de temps que tu es géologue au parc, toi ?
Alors, je suis géologue au parc depuis 6 ans, mais en fait, je travaille sur le territoire depuis, je peux le dire, depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire depuis que j'y suis né.
Ouais, puisque
je suis un enfant du pays et j'ai commencé à m'intéresser aux cailloux en gardant les brebis sur le Cos. Donc, c'est là que j'ai découvert mes premiers fossiles. Et si j'avais trouvé un pectène à l'époque, j'aurais été heureux, mais j'ai trouvé que des petits morceaux.
Et alors, est-ce que ça t'arrive depuis que tu bosses au PNR, est-ce que ça t'arrive fréquemment ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en interaction comme ça avec des artistes, avec des plasticiens, avec des architectes ?
Oui, ça m'est arrivé même avant d'être au parc, puisque par exemple Roger Rousseau à Beauregard qui a mis à jour tout le rocher comme un regard sur le sous-sol. En fait, on a fait connaissance sur son site. Lui, il souhaitait rencontrer le scientifique et moi, le scientifique, étant curieux de rencontrer un artiste qui s'intéressait à des cailloux. Et c'était génial parce qu'en fait, à la fin de la demi-journée, on avait presque inversé les rôles. Lui, il commençait à décoder les traces de l'histoire, justement les traces de la mer dans les cailloux. Et moi, je découvrais tout ce qu'il peut y avoir aussi derrière cette façade un peu froide qu'est la pierre. Une fenêtre sur le paysage, c'est déjà une œuvre qui permet de découvrir quelque chose qu'on baigne dedans et on n'y fait même plus attention, c'est-à-dire tous ces paysages qui nous entourent et qui sont assez spécifiques. C'est aussi une fenêtre, le paysage c'est une histoire, c'est aussi une fenêtre sur cette histoire-là. Et c'est pour ça que je trouve que ce symbole de la coquille est très intéressant, parce qu'il renvoie à la fois à l'histoire géologique ancienne, la vallée sèche plus récente, et puis la coquille de Saint-Jacques avec tout le pèlerinage. Pèlerinage évidemment à l'époque médiévale et pèlerinage actuel ou pèlerinage ou en tout cas déambulation sur le chemin de Saint-Jacques. Et je trouve que justement cette fenêtre-là est intéressante parce qu'à la fois elle nous renvoie sur un élément identitaire du paysage de la vallée sèche et sur l'histoire de ce paysage.
Donc la poésie, l'art, est-ce que c'est aussi nécessaire pour comprendre un lieu ?
C'est pas nécessaire, c'est fondamental.
Thierry a bien résumé voilà, cette balade dans le temps qui m'a intéressée. C'est en effet du Jurassique à aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a tous ces marcheurs qui ont encore symbole de la coquille Saint-Jacques sur les sacs à dos, et qui, voilà, pour moi, comme pour tous, était un symbole aussi assez évident. Donc ce lien dans l'histoire au travers de la coquille, je le trouvais intéressant à raconter. Et puis dans une histoire aussi beaucoup plus contemporaine en termes de matériaux, je me suis posé la question de la coquille comme matériau de construction, si ça pouvait pas faire partie du refuge et être un moyen de construire le refuge. Et voilà, quand je commençais à me renseigner sur la coquille Saint-Jacques, où je ne connaissais pas grand-chose sur la coquille, je me suis rendu compte que c'était 150 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France, les coquilles, et qu'on ne savait pas quoi en faire. C'est très, très peu valorisé. Et ça, moi, étant designer, architecte, je trouvais ça intéressant aussi d'explorer la question de la matière. Et donc, la coquille comme moyen de construction. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, explorations, comment on pourrait utiliser la coquille, donc à travers des prototypes. Et puis on a trouvé des systèmes constructifs qui pouvaient être intéressants à explorer. Et donc c'est là que je me suis lancée dans la quête de la coquille, puisque pour construire le refuge, il faut 15 000 coquilles Saint-Jacques. Donc à peu près 11 000 pour faire la toiture et 4 000 pour faire le béton de coquillage qu'on va faire pour le sol du refuge. Parce que là, on va concasser des coquilles qui vont remplacer en fait les agrégats habituels. On utilise du gravier, etc. Là, on remplace par ce concassé de coquilles et ça nous permet d'avoir un béton qui est créé à partir de déchets.
Et d'où viennent les coquilles récoltées ?
Alors ça, c'est aussi toute une histoire, on pourra en parler pendant des heures. Moi, j'ai rencontré un pêcheur en Bretagne qui pêche de manière durable les coquilles Saint-Jacques en plongée, parce qu'on a plusieurs façons de pêcher la coquille à la drague, donc là où on brasse beaucoup les fonds marins, ce qui n'est pas vraiment bon pour les fonds sous-marins. Et puis voilà, il y a certains modes de pêche, donc en plongée, on peut pêcher la coquille une fois qu'elle est suffisamment grosse. Et donc voilà, j'ai rencontré ce pêcheur, j'ai fait un tour de bateau même avec lui, et puis je lui ai demandé comment est-ce que je pourrais récolter des coquilles qui soient pêchées de manière durable. Ça m'intéressait aussi de ne pas aller forcément chercher ceux qui pêchent des tonnes en même temps. Et du coup, il m'a fait rencontrer différents restaurants qui fournissent par ces coquilles, à Rennes notamment, à côté de Saint-Malo. Et donc j'ai contacté tous ces restaurants, j'ai été les rencontrer, et on a mis en place un système de collecte régulière de coquilles pendant 4 mois. Faut voir que c'est toute une organisation, puisque il faut passer, ça sent très fort les coquilles Saint-Jacques une fois que c'est ouvert. Donc il faut, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment dans la rapidité. Donc c'est assez lourd. Donc on a réussi à trouver toute cette organisation. Et puis ensuite, il faut les nettoyer. Donc déjà pour la question du poisson. Et puis après, l'idée c'est de les gratter aussi pour retrouver la couleur. Souvent, quand elles sont restées dans les fonds sous-marins, elles ont des concrétions, elles ont du calcaire, des petits animaux qui sont venus dessus, etc., qui peuvent aussi sentir. Et donc là, il faut nettoyer, donc avec des brosses métalliques. J'ai fait plein d'essais, tout un protocole de recherche sur comment le mieux nettoyer ces coquilles. Et puis j'ai trouvé des gens aussi pour m'aider, évidemment, sur place en Bretagne. Et puis moi, j'ai monté aussi mon petit atelier à Lyon de collecte de coquilles, donc avec un restaurant qui est à côté de mon atelier, à moins de 200 mètres, une poissonnerie qui est aussi à 400 mètres de mon atelier. Et toutes les semaines, j'ai pu aller récupérer 40 kilos de coquilles. Et donc, à chaque fois, je les ai nettoyées, brossées et empaquetées. Donc là, j'en ai dans ma voiture. Et puis sinon, il y en a une partie en Bretagne et encore 2000 à Lyon.
Voilà. Et c'est quoi les caractéristiques physiques et plastiques d'une coquille ?
Alors, plastique, ça, c'est, pour moi, c'est une évidence. C'est un coquillage, c'est vraiment, c'est parfait, c'est beau, ça ressemble à un peigne. Il y a des petites stries qui accrochent la lumière. Pour moi, il y a des multiples couleurs. C'est ça qui m'a intéressée aussi, parce que souvent, les coquilles qui sont des fois sur les gens connaissent ou qui sont sur les sacs à dos, elles sont blanches en fait. C'est parce qu'elles ont été blanchies à la javel, celles qu'on utilise en surgelé. Et souvent, les gens connaissent que celle-ci. En l'occurrence, une coquille Saint-Jacques naturelle, elle a plein de couleurs. On a des marrons, des oranges, des mauves, des rosés, et des stries. En fait, selon les bassins où elles sont pêchées, on a une variété incroyable. Et ça, je l'ai découvert aussi petit à petit. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés. On a un nuancier de la mer qui est incroyable. Voilà, simplement à l'intérieur, on a la nacre aussi, et la blancheur de la nacre. Et ça aussi, c'est très beau. Y a aussi, en effet, ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que l'animal, il se protège avec cette coquille. Et donc là, faire un refuge constitué de coquilles qui protège, pour moi, ça avait du sens. Et puis, c'est aussi toute la rêverie que peut porter un coquillage. C'est-à-dire un coquillage, on a tous des souvenirs de ramasser les coquillages au bord de l'eau. Ici, on a la question du voyage à travers les chemins. Les gens qui se baladent, des fois qui viennent d'autres pays. Et donc ça, je trouve que la force poétique et imaginaire du coquillage, elle est importante aussi pour parler d'un refuge. Parce qu'un refuge, œuvre d'art, c'est fait aussi pour donner à rêver, penser autrement. Passer un moment qui n'est pas forcément... qui reste une expérience.
Et est-ce que les refuges sont d'autant plus nécessaires dans des temps troublés comme ceux qu'on traverse en ce moment ?
Pour moi c'est évident, c'est sûr, d'avoir la possibilité de reprendre aussi le temps, d'être dans la nature. On a besoin en fait de rêverie, d'imaginaire. Donc ce matin j'étais avec les enfants de l'école de Limogne et on est venu ici, ils connaissent bien le site, ils s'épanouissent rapidement, ils voient bien venir dormir avec leurs parents dans la cabane, comme ils disent. Donc je pense qu'il y a besoin de rêverie pour tous. Par contre, moi j'ai rencontré beaucoup de marcheurs aussi sur le chemin, et il y a plein de raisons pour lesquelles les gens marchent. Et des fois, ça donne à... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. On prend le temps, pour une fois, de pouvoir réfléchir. Mais ce n'est pas forcément tout seul. C'est souvent des gens qui partent tout seuls. Ils rencontrent plein d'autres gens aussi dans le soir, justement, dans les gîtes. Et ici, dans le refuge, donc c'est prévu, mon refuge est prévu pour 4 personnes. Et en fait, ça peut être soit un moment où on vient en famille. On peut habiter non loin d'ici et puis on vient dormir ici en famille et puis faire une petite expérience. Ou on peut aussi être tout seul, marcheur, et on rencontre d'autres marcheurs qui sont venus aussi dormir à ce moment-là. Et c'est aussi un point de rencontre. Donc ça se fera avec le temps. Donc la coquille, moi j'ai fait des recherches aussi sur la durabilité de la coquille, puisque ça peut aussi poser question. En l'occurrence, j'ai contacté un chercheur au CNRS de Brest qui s'appelle Laurent Chauveau, qui est un grand spécialiste de la coquille Saint-Jacques, qui a écrit un livre, La Sentinelle de l'Océan, qui est un très beau livre. Et du coup, je lui ai posé des questions sur la coquille, comment elle vivait dans le temps, etc. Et lui, qui travaille avec la coquille depuis très longtemps, il m'a dit, en fait, c'est drôle, j'y avais jamais pensé, mais en tout cas, la coquille, elle a toutes les caractéristiques d'un toit idéal. Parce qu'il m'a dit, elle est non-gélive, donc elle ne gèle pas, elle ne va pas éclater. Elle est antifongique naturelle. Il faut savoir qu'il y a des chercheurs au Japon même qui utilisent la poudre de Saint-Jacques dans les peintures pour éviter les mousses, etc., dans les façades. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de mousse. Donc c'était une question que je me posais, c'est-à-dire est-ce que au bout de quelques années, ça va pas être complètement recouvert par la mousse ? Normalement non, en tout cas pas tout de suite. Ensuite, ça devient pas poreux. C'est très très dur, c'est très dense. Il faut savoir que la coquille, c'est 95% de calcaire. Donc, on est très proche de la pierre, de la roche d'ici. Donc, normalement, dans les caractéristiques, on devrait pouvoir tenir dans le temps. Et puis, je me suis renseignée sur quelques architectures ou jardins qui ont utilisé la coquille Saint-Jacques, notamment Palais du Facteur Cheval ou un jardin que je connais qui n'est pas très loin de mon atelier, qui s'appelle Rosamir, qui a été fait... par un Espagnol dans les années 70. Et depuis plus de 30 ans, les coquilles Saint-Jacques sont dehors, dans un jardin, il y en a plus de 20 000. Elles sont dans des configurations totalement autres, dans un jardin, mais il y a de la pollution, il y a de la pluie, il y a des intempéries, et elles n'ont pas bougé. Donc voilà, ça m'a plutôt rassurée sur la question de la durabilité, parce que quand on fait un projet comme ça, on est aussi dans l'expérimentation, on a forcément des incertitudes, il n'existe pas forcément d'architecture composée que de coquilles Saint-Jacques, donc c'est normal qu'on se pose des questions aussi tout azimut, et puis de rencontrer un peu des spécialistes, ça permet aussi de se conforter dans des hypothèses.
Donc là, tu es avec des scolaires, hier tu étais avec des scolaires, aujourd'hui tu n'en vois pas, tu en vois peut-être dans la semaine.
Ce matin, et puis demain, je revois aussi les plus grands, donc qui sont les CE2, CM1, CM2 de l'école Saint-Joseph de Limogne. Du coup, on a un projet de constituer un petit livret autour une exploration, un voyage autour de la coquille, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu la coquille sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça part de la coquille à la préhistoire, la coquille comme animal, donc la coquille refuge, la coquille et le son aussi, parce qu'il y a des fois la coquille peut être utilisée comme instrument de musique, la coquille évidemment qu'on mange, donc l'idée c'est que les enfants ils soient des petits reporters et qu'ils se renseignent sur ces différentes facettes de la coquille, mmh. et qu'on puisse en faire un petit livret pour que finalement les habitants de Limogne qui voient passer ces coquilles sur les sacs à dos puissent en savoir un peu plus au travers aussi des enfants la coquille Saint-Jacques comme animal, mais pas que.
Et donc samedi, il y a un rendez-vous ce samedi, donc le 12 mars à 10h30, là pour le coup avec les habitants de Limogne.
Oui, donc j'avais déjà fait la dernière fois que je suis venue au mois d'octobre une rencontre avec les habitants sur le site. L'idée c'est de continuer à garder contact et puis d'expliquer le fil du projet, les avancées en termes formels, constructifs, le fait raconter comment les coquilles ont été récoltées. Enfin, ce que je viens de vous raconter, c'est aussi partager ce récit avec les habitants.
Et quels avaient été les retours lors de la précédente rencontre au mois d'octobre ?
Oui, ça a été assez positif. J'avais bien, c'était un beau moment, avec beaucoup de questions en effet sur comment est-ce possible de construire en coquille Saint-Jacques. Donc, j'avais ramené un prototype, donc ça avait permis de voir en fait de manière visuelle plutôt. Pour convaincre, mais du coup j'ai eu beaucoup de retours positifs et de questions, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand il y a des questions.
Merci Sarah.